Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web Choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous!
Salut tout le monde! On se retrouve après un long 2 semaines d'absence à cause de Jésus de Pâques et à cause de l'éclipse. J'espère que vous êtes bien reposés et que ben, vous êtes ennuyés. Ennuyez-nous aussi un petit peu. Je suis très contente d'être de retour au micro aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'agenda de la semaine, mais avant tout aussi, j'aimerais faire une petite mention. Le fait que j'ai été à la foire d'art, la plus grande foire d'art en fait de Montréal de l'année, qui s'appelait auparavant la Foire Papier, mais qui aujourd'hui s'appelle la Foire Plurale. Et j'aimerais donner un gros shout-out à 2 femmes artistes en art visuel, 2 peintres que j'adore et que je suis extrêmement fière d'avoir vues là-bas à Plurale. J'ai nommé Rosalie Gamache et Vicky Vanionpas. Ce sont 2 artistes femmes extraordinaires. Je vous invite à aller voir leur travail sur Instagram. Malheureusement, la Foire Plurale aujourd'hui est terminée, mais vraiment, ce fut un plaisir délectable de voir leur travail en fin de semaine. Alors, on commence tout de suite. Lundi 15 avril, on rentre maintenant dans les demi-finales des Francouvertes. Alors, ce soir, ça va être Caroline Boily, Soleil Launière et Sensei H à 20h, toujours au Cabaret Lion d'Or. Demain, le 16 avril, toujours les demi-finales des Francouvertes. On va voir le Belladone, Princesse et Nectar Palace à 20h au Cabaret Lion d'Or. Mercredi 17 avril, pour les demi-finales des Francouvertes, on a La Monarque, Loïc La France, Patrick Bourbon à 20h au Cabaret Lion d'Or. On a hâte de voir ça. Ensuite, jeudi 28 avril, Mon Doux Seigneur est au Fouf avec Oui Merci, ça risque de brasser dans la cabane. Ensuite, vendredi 29 avril, il y a Totalement Sublime qui fait son lancement d'album à la SAT. Et j'ai entendu dire qu'il allait avoir des animations immersives. Ça a l'air d'être assez pété. Merci. Et qui sait? On a peut-être encore des billets à donner sur nos réseaux. Restez à l'affût cette semaine sur l'Instagram de Choc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait samedi? Ah oui, 30 avril, il y a la journée internationale des disquaires. En fait, c'est que comme plein de disquaires qui vont faire des événements spéciaux à Montréal, vous pouvez aller voir tous les détails en fait sur recordstoreday.com. Allez voir le site, il y a toutes les informations. Puis comme d'habitude, vous me connaissez, les dimanches, là, qu'est-ce que j'aime faire? Là? C'est quoi? Ben, c'est jouer au Magic. Puis en fait, cette semaine, vu qu'on a une invitée que j'aime beaucoup, qui joue à un jeu en particulier, je vais dire aussi qu'on va jouer à Animal Crossing, parce que Estelle va joindre à nous en fin d'émission pour faire une recap des Francouvertes avec moi. Ça va être le fun. On attache notre sucre avec la broche. Et aujourd'hui, j'ai une table pleine de belles personnes. Alors, j'ai Nathaniel, qui ne fera pas de chronique malheureusement parce qu'on est full book, mais il venait être avec nous pour participer, pour avoir du fun avec nous. Salut Nathaniel, ça va bien?
Oui, toi?
Yes! Et on a Delphée aussi qui nous a préparé une belle chronique sur une exposition qu'elle a été voir la semaine passée. Et j'ai un invité très spécial nommé Thomas Roosevelt. Bonjour Thomas Roosevelt!
Salut Mireille, merci de m'avoir invité. Comment ça va?
Ça va bien et toi? Vraiment merci. Très heureuse de t'avoir en studio avec nous aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer avec la chronique de Delphée. Yes. Ensuite, on va jaser un peu avec Thomas. Puis ensuite, on va faire le gros party avec Estelle, puis on va parler des Francouvertes. On part.
All right. Donc moi, j'ai parlé d'un des volets de mon défi féministe à la radio, l'exposition « Femmes, volcans, forêts, torrents » qui est présentement au Musée d'art contemporain jusqu'au 18 août 2024. J'y étais à la deuxième jour de sa sortie. Donc ce sont des œuvres collectives de 9 femmes. Donc pour les nommer, Assinia Jack, Jacine Carrier, Maria Escoura, Caroline Gagné, Anaïta Norouzi, Neliev Rajotte, Sabrina Raté, Sonia Robertson et Malena Slam. Donc, c'est 9 femmes qui sont actuellement établies au Québec, mais qui ne sont pas nécessairement d'origine québécoise et qui ont fait comme une écoute de la nature. C'est une méditation à travers le regard de ces 9 femmes et c'est axé sur la réflexion et nos écosystèmes.
Donc, c'est en mode écolo. Hein.
En mode écolo. Ouais. Par contre, un petit bémol au niveau du titre, « Femme » ne veut pas dire « féministe » pour cette exposition.
Ah.
Une de mes petites déceptions. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'un volet féministe, mais bien plus de la nature. Donc, on va avoir 9 œuvres d'art en tout, dont certaines qui sont interactives, d'autres qui sont plus au niveau plastique, donc du carton, de la peinture, des choses comme ça. Et d'autres qui vont être vraiment audiovisuels. Alors, par exemple, en fait, je vais vous présenter mon top 3 de ces œuvres. Il y a Migrants néotropicaux. Ce sont des peintures ou des dessins sur des cartons de colis internationaux.
Mm.
Et c'est les dessins de 150 oiseaux migrateurs néotropicaux qui se posent au Québec avec des signalements sur ces dessins de si l'espèce en tant que telle est en santé, donc c'est en voie d'extinction ou pas. Cette œuvre a pour but de souligner les contradictions de la mobilité dans la géopolitique contemporaine en levant son regard vers le ciel, tel que le dit si poétiquement l'artiste de cette œuvre, Maria Escura. Sinon, il y a une de mes œuvres préférées, encore une fois, c'est celle d'Anaïta Nourouzi. C'est une réflexion sur le colonialisme, l'immigration et l'identité, tout en absorbant les dimensions écologiques dans son œuvre « Diaspora en constellation ». Donc, ce sont comme
c'est
des petites...
C'est un beau titre, ça, j'aime ça.
Oui, et l'œuvre en tant que telle est magnifique. C'est comme des petites boules de verre bleu dans lesquelles il y a des graines d'une plante iranienne. C'est son origine, d'ailleurs, à l'artiste. Puis c'est des plantes qui sont arrivées à cause de la colonisation, mais qui ont été jugées comme envahissantes pour le Québec. Et donc, on a fait de notre mieux pour, qu'elles deviennent extinctes. Fait que c'est comme un peu une réflexion sur l'immigration, le rapport à l'immigration ici au Québec, sur ces plantes-là qui se rapportent à l'humain. C'est un peu complexe, mais c'est assez réfléchi et très beau à voir aussi. C'est comme des gouttes d'eau suspendues dans l'air. C'est vraiment spécial.
Visuellement, ça doit être intéressant, mais de savoir aussi le concept doit apporter encore plus à l'œuvre aussi. Là, ça doit être...
Ben oui. Exactement. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, c'est l'œuvre de Nelly-Ève Rajot, « Les arbres communiquent entre eux à 220 Hz ».
Nathaniel, j'entends pas ton micro.
Donc, ça va être une œuvre qui va, en fait, je sais pas si vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux, on met des micros sur certaines plantes et on entend c'est quoi les fréquences de ces plantes-là. Donc, il y avait fait des expérimentations avec le gazon, entre autres. Bien, ils ont fait ça avec les arbres pour cette œuvre-là. Donc, il y a un arbre dans la pièce qui a un capteur de fréquences.
Un arbre au complet?
Un petit arbre.
OK, moi, je m'imagine un séquoia.
Non, un très petit arbre, ma foi, qui va être dans la pièce et dont on va entendre les fréquences. Donc, c'est ça. Puis, on va regarder, en fait, sur 3 écrans, comme des petits picots qui forment une forêt qui avance, qui recule, qui se déplace sur les axes Y et Z. Alors, on va comme être en immersion dans cette forêt-là, autant par le sonore avec la fréquence à 220 Hz de l'arbre et cette vision-là comme en 3D où est-ce qu'on rentre dans la forêt. Donc, c'est très méditatif.
Immersif aussi.
C'est immersif. Puis ici, il y a un mot que je pourrais utiliser pour décrire justement l'exposition, c'est la méditation. J'ai eu la malchance d'y aller quand il y avait encore les artistes qui présentaient leurs œuvres.
C'est rare que les gens disent ça. Habituellement, quand il y a les artistes, les gens trippent parce que c'est les créateurs qui sont sur place. Mais toi, tu trouvais qu'ils parlaient trop fort.
Ils parlaient super fort. Puis moi, j'essayais de méditer, puis de regarder les œuvres, puis d'en profiter. Puis ils parlaient tellement fort, là, vous n'avez aucune idée.
C'est tellement mon style, là, d'être ma propre exposition, puis de déranger les gens qui viennent voir mes œuvres.
J'ai l'impression que ça dépend des œuvres. Si je vais voir, je sais pas, quelque chose qui est sur l'anarchie ou je sais pas, peu importe, quelque chose qui est pas méditatif, en fait, ça me dérange pas de me faire déranger. Mais là, quand t'es exposé vraiment comme...
Là, on s'entend que t'étais pas au vernissage aussi, là. T'es pas en train de te plaindre. Mais là, il y avait plein de monde, mais là, t'es au vernissage.
C'était vraiment le lendemain, là. C'était vraiment le lendemain. Fait que, tout cas, c'était un peu plate à ce niveau-là.
Est-ce que tu as pu parler aux artistes, peut-être?
Mais même pas. C'est ça, l'affaire. J'ai l'impression, je pense qu'ils parlaient entre eux, puis après ça, ils ont quitté.
Ben là.
Mais écoutez, j'étais un peu confuse. Puis une autre affaire... les artistes, hein?
Oui.
Mais non.
Amiel. Oui, c'est ça. Je suis des deux bords, je comprends les deux bords.
Mais c'est ça. Fait que ça a un peu ruiné l'expérience à ce niveau-là. Puis l'autre chose, c'est que l'œuvre de Malena Slams, qui, à ce que je comprends, était comme une grosse partie d'exposition, elle avait comme sa pièce réservée, était fermée. parce qu'il y avait des problèmes techniques.
Ah non.
Et j'ai
attendu...
Le lendemain du vernissage. Ah, puis j'ai attendu quelques minutes, puis ça s'est pas réglé. Puis j'avais vraiment fait le tour de l'exposition. Sincèrement, j'avais pas d'œuvre à aller revoir une deuxième fois.
Je comprends.
Fait que j'avais un peu laissé faire. Puis pour être honnête, ma critique personnelle, c'est super intéressant. Il y a des bonnes réflexions à faire. C'est des œuvres qui sont uniques aussi. T'sais, j'ai vu beaucoup d'œuvres dans ma vie, rarement des œuvres qui ressemblent à ça. Mais par contre, on fait le tour assez vite de l'exposition. C'est souvent, comment dire, c'est quelque chose que tu regardes une fois, mais que tu restes pas pendant 20 minutes devant à regarder chaque détail. Mm-hmm. Si je peux le dire
ça,
de cette façon.
C'est aussi un avis personnel. Mais
c'est
aussi,
un avis personnel.
Peut-être aussi, j'avais comme une impression aussi que tu t'attendais à quelque chose avec un accent beaucoup plus féministe aussi.
Exactement.
C'est ça, parce qu'on s'attendait dans le cadre de ces chroniques-là mm-hmm. que tu ailles voir du contenu féministe. Puis moi, je me demande encore, après t'avoir écouté parler de l'exposition, pourquoi est-ce que le mot « femme » est dans le titre? Oui, ce n'est que des femmes, mais est-ce qu'il y avait comme pas peut-être un problème de communication aussi à cause de ce titre-là, ou est-ce qu'il y avait...
Bien, je pense que vraiment le « femme », surtout que c'est le premier mot aussi dans le titre d'exposition, moi, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup porté à confusion.
Voilà. Ouais.
C'est que ça commence avec le mot « femme », puis moi, je me suis dit, d'accord, mais c'est ça, d'abord, le sujet voilà. principal, c'est la féminité au sein de la nature, des choses comme ça, et ça n'a vraiment pas été le cas. Donc, au niveau féministe, ça m'a un peu... déçue, mais au niveau nature, par contre, c'était très complet. On comprenait vraiment ce que les artistes voulaient communiquer par rapport aux volcans, aux forêts, aux torrents. Et juste une autre chose aussi qui m'a peut-être un peu confuse, c'est que dans le titre, moi, quand je pense à des volcans, des forêts, des torrents, mm-hmm. associés au mot « femme
ouais. »,
je pense à l'émotivité, je pense à cette sphère-là de
l'authenticité
féminine.
L'espèce de force féminine.
Exactement.
Oui, oui, oui.
Tandis que c'était vraiment juste plus une réflexion sur la
géologique,
nature.
Genre.
Ouais. Exactement.
C'est une référence géologique, mais quand tu l'as lu au mot « femme », à 100% comme toi, puis même, je pense que j'en avais parlé aussi dans le dernier épisode, quand tu avais mentionné le
ouais.
titre de cette exposition-là, j'ai fait une toile d'une femme volcan, puis pour moi, direct, j'ai fait « OK, c'est ça, ça va être ça, ouais. la paix », puis
ben,
genre...
voilà, je pense qu'on a un peu toutes fait ces liens-là, en tout cas, du moins, nous.
Ouais.
Donc, c'est ça, et quand j'ai fait comme « Ah, OK ». Ça a été un peu ça, ma réaction première. De quand j'ai quitté, je me sentais comme pas... rempli d'émotions, parce que c'est pas les émotions que je m'attendais. Fait que j'imagine que c'est probablement de la faute de mes propres attentes que j'étais un peu déçue.
Mais c'est quand même bien de réorienter nos auditoristes parce que, tu sais, on dit pas de pas aller à l'exposition, mais de s'attendre à quelque chose de peut-être avec un degré moins de moins féministe qu'on pensait.
C'est plus par rapport justement à notre, la terre québécoise, à le rapport avec la nature, avec l'humain, comment il interagit avec la nature.
Aussi, absolument.
C'est incroyablement pertinent, c'est super intéressant aussi. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. C'est juste que c'est ça. Quand on s'attend à des sujets différents...
Tu t'attendais à manger genre du sucré, puis là, t'as du salé à la place.
C'est
comme, on aime les deux, mais comme...
Le salé était pas mauvais,
c'est comme
mais...
quand tu bois, genre, tu punks, genre, tu penses boire du lait, puis finalement, c'est du jus d'orange, tu fais le moyen saut, genre.
Ouais,
voilà.
C'est une bonne métaphore.
Donc, c'est ça. Fait que le seul bémol, je crois que le titre était peut-être un peu trompeur comparé à ce qu'il y avait réellement dans l'exposition. Mais ceci étant dit... C'est quand même, je pense, une exposition qui est pertinente à voir au niveau culturel et personnel. Mm. Puis je vous rappelle aussi que l'installation est disponible jusqu'au 18 août 2024. Donc, c'est 9 femmes artistes qui parlent, et non pas des femmes enragées, mais bien vraiment de la nature et de leur rapport avec celle-ci.
On aime ça. Chers auditoristes, si jamais vous voulez aller voir l'exposition, que vous avez des choses à dire par rapport à ça, gênez-vous pas, écrivez-nous à danslesarts.podcast sur Instagram. On va être heureux et heureuses de lire vos commentaires. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver avec nous en studio.
Allô.
Estelle Grignon.
Allô.
Bonjour Estelle. Je te dis un petit coucou, puis après je passe à Thomas tout de suite, mais j'ai bien hâte qu'on jase.
Oui, ça fait du bien d'être de retour au micro de Dans les airs après... C'est la première fois que je parle dans ce micro-là dans les airs depuis mon retour à Choc.
Oui, on est tellement contents de te voir.
Allô.
Bon, je saute tout de suite à Thomas.
Je m'en vais.
Mais non!
Mais non, tu viens d'arriver. C'est bon, je suis là.
Thomas Rousseval.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très, très bien. Merci, Mireille.
Merci beaucoup d'être ici avec nous au studio. En fait, est-ce que tu pourrais... Je vais commencer à te poser des questions peut-être sur ton début de parcours. Comment t'en es venu au monde du cinéma? Je vais vendre la mèche. Je sais que t'es français, en fait.
Oui.
Peut-être parler de la bulle française versus québécoise dans le monde du cinéma. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense?
Déjà, pour débuter, moi, je suis réalisateur et comédien. J'écris aussi tous mes projets. Donc, je me classifie comme plus créateur. J'aime constituer l'ensemble de mes univers, les conduire de A à B.
T'es des deux côtés de la caméra, en fait.
Exactement. Ouais. Et donc là, ça va faire plus ou moins une dizaine d'années que je fais ça. Et,
avant, tu faisais quoi?
J'ai commencé, je travaillais dans le cinéma d'animation, donc je travaillais pour les dessins animés.
Toujours dans l'art visuel aussi.
Ouais, très, très dans l'image, savoir composer des plans, amener une narration à travers un plan de caméra, une position de caméra, etc. Aussi la lumière, etc. Et en fait, ce que j'aimais, c'était aussi dans les films d'animation, c'est ce côté irréel, onirique, rentrer dans des univers qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le live action, plus le cinéma réel,
physique en fait,
physique,
de jouer
physique, m'attirait, partager ça avec les gens, donc j'avais quelque chose de plus extraverti qui me conduisait vers ça, et je me suis dit pourquoi pas amener et allier les deux que je faisais dans le cinéma d'animation, le côté un peu onirique et un peu hors du temps, irréel, et de l'amener des fois aussi dans l'image, quelque chose de live action, et je trouvais ça intéressant de jouer sur ça, donc j'essaye de toujours un peu déconstruire un peu le réel, et j'aime aussi amener un spectateur dans un univers qui rentre et qui rentre dedans à 100%. Et pourquoi ? Alors, le Québec, moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis ici. Et je voulais me rapprocher plus de l'Amérique, du cinéma qui m'influençait étant plus jeune.
C'est quoi le cinéma qui t'a influencé, en gros ?
Moi, j'étais très influencé par le cinéma américain, les westerns, les grands espaces, avoir quelque chose de très, très...
Et je crois que ton premier film, en fait, a un grand lien avec ça. On va revenir tantôt
là-dessus.
Exactement,
c'est pour ça que j'en parle. Et donc, j'ai voulu capturer un peu cette atmosphère-là dans mes projets. Et j'avais aussi envie de goûter à de nouvelles cultures, rencontrer de nouveaux artistes.
10 ans, ça passe vite, hein?
Ouais. Oui. 10 ans, ça passe vite. Ça passe vite et beaucoup de projets menés à bout de bras, autofinancés majoritairement.
Félicitations. Ça, autofinancer un court-métrage, c'est quelque chose.
Ouais, et c'est aussi, j'aimerais rebondir dessus, c'est ça qui est important, je pense, surtout, c'est pas tant aussi de raconter mon parcours, c'est de montrer aussi à des gens qui ont envie de réaliser, des jeunes réalisateurs qui ont des idées, de pas se limiter à se dire « Ah, faut que je dépose une subvention, je vais attendre la subvention. »
100%.
Elle va être souvent refuser ta subvention.
Mais continuer à faire des demandes.
Mais il faut continuer à faire des demandes. Mais c'est de créer, s'entourer. Il y a des pages Facebook qui existent. Proposer des scénarios, proposer des projets, de dire « Ah, je cherche un directeur de la photographie, un assistant. » Et souvent, les gens se connaissent beaucoup. C'est un petit milieu. Beaucoup veulent faire leurs armes. Donc,
là, on parle sur des plateformes de personnes émergentes aussi, des talents émergents.
Donc, on ne peut pas se limiter non plus qu'aux subventions. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont prêts à prêter du matériel, etc. Donc, quand on a vraiment cette passion, on peut y aller à son
tour. Nathalie, tu avais une question?
Ouais, est-ce que tu dirais qu'il faudrait créer ses propres projets, que ce soit au complet ou juste créer des projets dans lesquels on peut s'insérer juste avec un petit rôle? Je pense à quelqu'un qui veut juste faire la direction photo, il ne veut pas tout créer le projet.
Mais... Ouais, tu peux. Il y en a beaucoup, beaucoup qui font ça, qui posent des annonces en disant « Moi, je suis directeur photo, j'ai du matériel, ceux qui veulent construire un projet, je suis là. Cool. » Donc, c'est très, très important. Et souvent, ça permet aussi de faire connaître des styles de projets qu'on ne voit pas dans la sphère audiovisuelle québécoise. Et ça permet aussi peut-être, et j'espère, de débloquer aussi un nouveau genre, une nouvelle façon de voir les choses. Et peut-être aux producteurs se dire « Ah, bah, c'est des sujets qu'on a envie de parler, le public a envie de voir ça. » Et souvent, il y a beaucoup de projets comme ça qui partent en festival. Et qui deviennent des projets importants plus tard.
Ça fait boule de neige un peu. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant à être comédien et le réalisateur. Tu dirais que c'est quoi le plus gros défi de jouer ces deux rôles-là, en fait?
Beaucoup d'organisation et pas avoir peur de se dire « Ah bah tiens, je suis légitime de le faire. » C'est que si tu le ressens et c'est vraiment quelque chose qui t'anime et tu étais bien organisé, tu as ta partition et après tu donnes ça après à ton équipe... souvent tout est fluide et je pense que pour rebondir à ça aussi c'est intéressant d'avoir un peu ces deux côtés parce que ça permet de bien conduire un projet, de savoir aussi s'exprimer en tant que avec les autres comédiens aussi, de savoir
en tant que chef d'orchestre aussi.
Exactement.
Et de joueur aussi.
Exactement.
Dans l'orchestre à la fois, c'est ça qui est cool.
Et c'est pratique pour faire avancer un projet ou d'aller chercher des émotions chez un comédien en lui disant il faut s'adapter aussi à la personne, il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas
Tu comprends un peu plus les comédiens, c'est
exactement,
ça.
Exactement,
ouais. Ah. Estelle?
Oui, puis j'imagine que dans un contexte où tu autofinances tes projets, où tu n'as pas nécessairement beaucoup d'argent, c'est peut-être un peu plus facile aussi d'embarquer là-dedans en disant c'est moi qui vais le faire, je vais être payé ce qui va me rester à la fin, que de devoir engager toutes ces personnes-là quand tu peux faire ces rôles-là toi-même aussi.
Exactement. Et donc, pour rebondir à mes premiers projets, j'avais fait des films d'animation qui m'avaient conduit à des festivals, même à Montréal. C'est pour ça qu'aussi j'avais commencé à faire un peu des contacts. Et j'avais ce rêve, en tout cas, de faire un western comme à l'époque, avec des grands espaces, avec les lentilles anamorphiques qui sont des lumières.
C'est quoi des lentilles anamorphiques pour le commun des mortels, s'il vous plaît?
J'ai utilisé un cinéma, puis je sais pas c'est quoi.
Les lentilles anamorphiques, c'est pas des lentilles sphériques, elles sont ovales à l'intérieur et ça te permet de capturer un champ plus large, donc des panoramiques, quoi.
Est-ce que c'est un peu comme la fonction 0.5 sur les appareils photo?
Merci Estelle, merci. Yes. Ça c'est le langage des millennials et de la Gen Z, merci.
Exact. Et en fait, ça te permet d'avoir des grands espaces et cette grande ouverture sur un univers. Et c'est ce qui a créé aussi des films. C'était un peu le début, comme on a voulu sortir les films en 3D. Quand les gens ils allaient au cinéma, c'était plus d'immersion. Bah, à l'époque, ils avaient développé ces lentilles-là et ils créaient beaucoup plus d'immersion dans les films qui étaient beaucoup plus spacieux. Donc, les gens pouvaient rentrer dans l'histoire plus facilement. Et c'était quelque chose qui m'attirait. C'est ce silence, aller chercher l'observation, la contemplation des espaces, et limite plus du non-verbal. Et j'ai pris plus de 2 ans et demi à autofinancer ce projet-là.
Ça, c'est ton premier projet qui s'appelle
Roy Brothers Journey.
Roy Brothers Journey.
Ouais. Yes.
Et c'est quoi, en fait?
C'est une quête fraternelle. C'est une famille du Wyoming dans les années 1800, 1880, 1870. C'est le début aussi de la construction des chemins de fer en Amérique, entre les États-Unis et le Canada. Et là, un des frères part travailler sur des chemins de fer pour subvenir aux besoins de leur famille, parce que l'hiver est rude. Et il ne donne plus de nouvelles, donc le plus jeune des frères part à sa recherche. Donc, c'est tout un road
qui
movie.
Qui est ton personnage?
Qui est un personnage que j'interprète, qui s'appelle Roy. Et ce que je voulais dire aussi, vu que c'est une famille très ultra-catholique, je voulais... sans jugement poser juste un avis, un questionnement, se disant que par moment ou parfois la religion peut te guider à des actes où tu repousses les limites de ton corps, qui peut être aussi positif ou négatif. Et là, en fait, il est tellement croyant et il a tellement la foi qu'il se dit je vais marcher tel un chemin de croix jusqu'à retrouver mon frère, mais il va se perdre dans la nature. Donc on va retrouver toute cette quête. Et
as tourné ça aussi pendant l'hiver, parce que tu as mentionné que ça se passait durant l'hiver rude. Ouais. Et moi, j'ai eu des petits insights de ça. Mm-hmm. Comment ça a été tourné pendant l'hiver québécois? Dehors, juste avec un petit chapeau de cow-boy.
c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. C'est surtout de devoir amener toute une équipe de 12 personnes entre moins 20 et moins 30. On a tout tourné au Québec et c'était... c'était tout un challenge. Il fallait s'occuper de la caméra.
Tombé malade,
oui. Pneumonie de 3 mois après le tournage.
Pneumonie, hein.
Mais
voilà.
On a voulu vraiment avoir... moi, ce que je recherchais surtout, c'était d'avoir l'émotion.
T'es vraiment mis dans le rôle, là.
Ouais.
En mode...
Exactement.
C'est quoi le film avec Leonardo DiCaprio? The Revenant, c'est ça? Roy The Revenant.
Je vais gagner d'Oscar pour ça.
bientôt.
Même au Québec, on fait presque pas ça, tourner des scènes dehors en hiver. Tu sais, à part Série Noire, mettons, qui me vient en tête, tu sais...
Ouais.
Même nous autres, on le sait que c'est pas une bonne idée.
Non, mais
c'est
Estelle.
C'est peut-être une naïveté de ta part, je sais pas.
Je pense que, de toute façon, c'est important d'avoir cette naïveté. Je pense que c'est ça que.
Estelle,
que tu
je l'ai vu le film, là, puis il se roule dans la neige assez longtemps. Là. Même moi, j'ai vu le film, j'ai fait comment t'as fait? Combien de temps ça t'a pris pour.
Oh mon Dieu.
Ah oui, ça fait mal à regarder.
D'où
là.
La pneumonie.
Mais on a une image qui est sincère et tellement belle.
Absolument
et
sincère.
Très sincère.
C'est ça.
Et après, on l'a projeté au cinéma du musée des Beaux-Arts à Montréal. On avait invité des producteurs.
C'était l'année passée, ça?
Il y a 2 ans.
Oui.
Et on a invité des producteurs, des gens du milieu qui viennent voir le film et qui a des possibilités d'acheter le film, de se faire connaître, de le proposer peut-être en long métrage, parce que c'était un moyen métrage. Ça nous a pris quand même...
Quand tu dis moyen métrage, c'est combien de temps?
C'est considéré comme... C'était 35 minutes, 40 minutes.
Ah non, mais faire un film de 30-35 minutes...
Ouais.
Dehors?
Le montage!
Dehors. Ouais. Ah, c'était un chemin de croix même dans le montage.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment... c'était toute une aventure épuisant, mais ça m'a permis en fait de le montrer dans des festivals. Je suis allé le projeter aussi au Mexique,
Et ça, tout autofinancé, on se rappelle.
Autofinancé, ouais. Et ça m'a valu quand même de pouvoir quand même de le faire connaître. Pas assez comme je l'aurais voulu, mais...
C'est quand même ton premier, puis c'est...
Ben, c'est quand même très impressionnant pour un premier.
Oui, mais... ben oui.
Wow. Mais...
Félicitations, Thomas.
Ben, merci beaucoup.
Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de tes futurs projets? J'en sais un petit peu, mais j'aimerais ça que tu nous en parles. Où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui?
Toujours à développer, toujours des projets, toujours être dans la création, faire les choses, essayer, surtout jamais s'arrêter, dessiner des plans, toujours trouver des nouvelles idées. Là, j'ai commencé un projet de série, encore autofinancé, mais avec la même équipe, mais avec... des gens quand même connus dans le milieu, des gens qui ont cru au projet. Donc,
on est plus dans l'humour aussi, dans ce contexte-là. Ouais.
Ça, c'est une série qui va être possiblement produite, j'espère, sur des chaînes ou des plateformes. Donc là, on est en train de le proposer.
Mais tu as déjà donné un peu des teasers aussi sur tes réseaux sociaux.
Exactement. J'ai commencé un peu à montrer... quelques teasers, le premier épisode qui est découpé en plusieurs parties.
Est-ce que je peux brag? Je veux brag.
Ouais, vas-y.
Je veux brag que je fais la voix sexy d'une voiture.
Ouais, d'une voiture. Donc, pour faire la mise en contexte.
Oui, c'est quoi cette série-là?
La mise en contexte,
c'est des voitures sexy.
C'est Cars.
Je me souviens pas de ça dans Cars. Là.
Il y a la voix de Mireille.
Le troisième.
J'habille en voiture, en fait, moi aussi. Je rencontre Mireille.
Transformer. Ce plateau.
Et on se serre les portières comme ça.
Oui, on a besoin de contexte, je pense. J'ai brag trop tôt.
C'est une série dans le monde de l'espionnage repris l'univers de Ian Fleming, l'écrivain qui a créé James Bond. Mmh. On connaît tous James Bond, on connaît tous l'évolution de James Bond. Et je voulais le moderniser, je voulais quelque chose de dynamique. Et en fait, l'agence manque de moyens, donc ils mettent en place leur nouvelle recrue qui s'appelle l'agence 0,07 avec virgule. avec les peu de moyens qu'ils ont et la formation un peu poussiéreuse, font un agent un peu misogyne avec des vieilles habitudes.
Mais je le trouve très niais aussi.
Ouais, il est très niais, mais c'est un enfant dans un corps d'adulte, mais qui peut rien en fait. Il est juste formaté par un système et lui il veut juste apprendre, mais il se rend compte de ce qu'on lui a enseigné au sein de l'agence, que James Bond est un orphelin à la base. Il est totalement manipulé et lobotomisé, donc quand il arrive sur le terrain,
il est tout le temps cloulet, j'ai l'impression.
Il n'y arrive pas.
Puis tu vas vraiment, en tout cas de ce que j'ai vu aussi, tu vas vraiment bien chercher les icônes des films d'espions, mais aussi les films vraiment iconiques d'action. Exactement. Je ne vais pas vendre la mèche non plus, mais je trouve que Thomas, là-dedans, tu as vraiment une bonne capacité à... Parce que tu sais, tu es vraiment un nerd de James Bond, on s'entend, mais ce n'est pas tout le monde qui l'est. Mais tu as été chercher des références aussi assez mainstream et accessibles, puis tu as été les retransformer d'une nouvelle façon, puis je trouve ça assez smart la façon dont tu le fais. Ouais. Et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tu vas pousser ce projet.
Juste la chose que je veux ajouter par rapport à cette série-là, c'est que le changement de l'univers, c'est par rapport à ce que j'intègre des croisements d'univers des films d'espionnage. Donc en fait, on va rencontrer autant les Men in Black avec James Bond, et en fait, tu vas avoir une genre de guerre d'ego d'agents et mondiale. Donc ça va être, il y a beaucoup de rebondissements.
Je tiens à dire aussi, visuellement, c'est le fun. Ça n'a pas été tourné avec une webcam aussi. Thomas, il était capable d'aller chercher des personnes avec des beaux talents, disons.
Ouais, on travaille. Ouais, exactement. Il y a des très beaux talents. Toujours la même équipe derrière la caméra.
Des bonnes lentilles anamorphiques.
Des bonnes anamorphiques. Oh, Estelle, tu sais me parler. Donc ça, on a projeté. Ça a été à Fantasia, le premier épisode. Et ça a vraiment bien fonctionné. On s'est rendu compte que c'était un projet qui en valait la peine. Et on en a tourné 4 épisodes. Là, on les proposait des producteurs. Donc, j'espère peut-être repasser quand il y aura quelque chose de plus officiel.
Wow. Est-ce que tu n'avais pas aussi un autre projet à nous parler?
Ouais. Donc,
ça, moi, j'ai hâte que tu m'en parles. Je ne sais pas à quel point tu peux en parler parce que je sais que ce n'est pas sorti encore. Je vais te laisser en parler.
Je ne vais pas trop me prononcer à 100% dessus parce que je ne suis pas tout seul à le réaliser. On est co-réalisateur que je fais avec Kevin Millien, photographe ici à Montréal. On a écrit toute l'histoire l'hiver dernier. On voulait être dans un thriller psychologique. C'est un huis clos, donc un huis clos, c'est un espace restreint où les comédiens vont jouer. Là, c'est dans un ascenseur, donc en fait on a utilisé l'ascenseur comme une genre de prison. En fait, c'est un couple qui rentre chez eux dans leur résidence avec leur petite fille. Ils prennent l'ascenseur de leur résidence et ils restent bloqués au 8e étage. et plus de réseau, et la voix de l'interphone se met à leur parler et vont les, entre guillemets, mettre en...
En mode le maître du loft,
ouais,
un peu.
Exactement. C'est ça.
Big Brother.
C'est ça, c'est Big Brother dans un ascenseur. Et il va leur mettre face à des conséquences. Et c'est, on, dans le fond, en fait, et la forme, on parle de choses qui existent. Donc, c'est une référence au minerai. Donc, le film s'appelle Cobalt.
Et, vous savez, c'est quoi du cobalt?
Bah, c'est bleu.
C'est bleu.
C'est dans le tableau périodique. On l'utilise pour quoi, le cobalt?
Les batteries.
Les batteries, nos téléphones.
Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cobalt, donc, est une grosse majorité des mines sont en République dominicaine du Congo. Et les grandes institutions comme la Chine, les États-Unis, donc Tesla, Google, Apple et tout ça.
Ouais, les gros bonnets, là.
Exactement, rachètent à la Chine du cobalt, du minerai, pour utiliser pour faire leurs batteries de téléphone. Sauf que... de téléphone, d'ordinateur, de batterie de Tesla, etc. Sauf que derrière, ça, c'est des enfants de 8 à 4 ans.
Ils n'ont pas d'assurance emploi, eux autres.
Pas d'assurance emploi, pas d'eau. Et ils se faufilent dans des trous tout petits, parce que c'est eux qui peuvent passer et ramener du cobalt. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui meurent sous l'effondrement de la Terre. Et derrière ça, la Chine récupère après le cobalt. En plus, ils font une pesée au moment... où ils rachètent le cobalt à des prix dérisoires. Ils les arnaquent totalement. Et puis après, ils revendent, ils se font de l'argent sur leur dos.
C'est les nouvelles mines de diamants, un peu.
Ouais, c'est ça.
C'est les nouveaux Blood Diamonds.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est des pierres de sang. Donc, et derrière ça, en fait, dans l'histoire, on a essayé de trouver un moyen, sans trop rentrer dans un jugement, mais d'utiliser l'ascenseur comme une mine, en fait. Comme un enfermement, un espace clos. Et d'aller travailler le côté psychologique sur les personnages.
Confronter un peu la réalité de ces personnes privilégiées à cette autre réalité-là.
Exactement. Et on ne voulait pas juger. Moi aussi, j'ai un téléphone. Tout le monde a des téléphones. Ce qu'on veut surtout dire, c'est l'utilisation, comment extraire le minerai, entre guillemets, par des enfants. Je trouve ça assez hypocrite de la part des entreprises.
Connaissant le travail aussi de Kevin Millet, avec ses goûts esthétiques, ses angles esthétiques, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi, ce melting pot ensemble.
Exactement.
Très excitant. Tu n'as pas de date à nous donner, rien.
Non, pas encore. Là, j'ai bientôt fini le montage. On voudrait le proposer à des festivals ici de cinéma à Montréal, donc comme le Festival Nouveau Cinéma, Cinémania. C'est un film français. Donc,
court-métrage encore.
Court-métrage de entre 18-17 minutes à peu près. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le montrer et j'espère que ça va aller loin.
Merci Thomas.
Bah, merci à vous.
Voulais-tu rajouter quelque chose avant la fin?
Non, en tout cas j'encourage en tout cas tous les créatifs ou les gens du milieu, peu importe le mouvement artistique.
Ah, quel beau message.
De continuer à créer. C'est un milieu qui est difficile, ça demande de ressources, des subventions,
c'est
mais c'est
possible.
Toujours y croire. Mm-hmm. Toujours y croire et toujours bien s'entourer et savoir aussi se vendre toujours.
S'il y a quelqu'un qui écoute, qui cherche des cues pour comment commencer son film, comment jouer dans un film, écrivez à Thomas.
Ouais, vous pouvez le contacter. C'est
demain,
Thomas...
tes emails vont être submergés.
Son Instagram, c'est Thomas Roosevelt.
On va mettre le lien en description.
Ouais, je sais, mon nom de famille est un peu compliqué.
Voilà. Est-ce que Delphine, tu avais une question?
Oui, en fait, ma question, c'est par rapport à tes créations. Il y a du western, il y a de l'humour.
Ouais.
Tu utilises différents styles. Comment est-ce que c'est pour toi de composer en tant que réalisateur différents styles cinématographiques? T'sais, c'est des règles différentes, c'est des mondes différents. Comment est-ce que tu fais pour composer avec ça?
Très bonne question. En fait, je pense que le côté, parce que je fais beaucoup de drames souvent, parce que le western, cobalt aussi, c'est un drame. Je pense que derrière, souvent, les drames, ils se cachent beaucoup aussi, tu sais, c'est souvent des personnalités qui sont très aussi comiques ou des manières de s'exprimer autrement. Moi, dans la vie, je suis pas une personne très 100% dramatique dans ce que je fais dans mes projets. Je suis toujours assez j'aime toujours être dans l'autodérision, etc. Donc le sujet comédie, en tout cas, ça a toujours été au final ma manière de faire les choses. Okay. Mais j'aime aussi aller toucher dans la sincérité. Je ne saurais pas trop comment te répondre. C'est quelque chose que je ressens. Et...
Si je peux te couper, Thomas, je pense que quand tu dis le mot sincérité, ça s'applique à tous ces arcs-là.
Ouais. Mm-hmm.
Quand ton intérêt est vers cette sincérité-là, elle peut prendre plusieurs formes, dont la comédie, l'humour,
c'est ça,
le drame.
C'est l'approche utilisée plus que le style, les codes en tant que tel.
C'est ça. C'est sûr que je suis influencé par les codes, mais comme dans la vie de chacun, je pense que c'est aussi les parcours que tu traverses dans ta vie. Il y a certains sujets que tu veux parler. Je pense qu'à ce moment-là, j'en étais là. Peut-être que je voulais parler d'un sujet sur le couple, les relations humaines. Et aussi, le sujet comme Cobalt, c'était une période aussi peut-être dans ma vie où j'avais besoin de parler ou d'extérioriser des choses sur la relation entre êtres humains.
Ouais.
Et je pense que c'est venu comme ça. Je pense que ça fait partie des fois des parcours dans ta vie que tu as envie de parler de sujets. Et voilà, je pense que... Je sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Oui, merci beaucoup, Thomas, pour cette entrevue. Je t'invite à rester avec nous pour la suite.
Ouais,
ça t'attend.
Ouais.
Estelle Grignon, bonjour.
Allô,
coucou.
Je vais essayer de me placer de sorte que.
Ouais, j'aimerais ça
voir.
Te voir. Un petit peu. Ah, allô, j'aime ça voir ton joli minois. Bonjour,
allô,
Estelle.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Je viens de manger. J'ai tellement envie de roter en ce moment. Fait que je vais essayer de.
J'aime
fermer
ça.
Mon
on se met à l'aise.
Si
on se met à l'aise.
Voilà, mais dans
je vois ça pas changer. Je vais couper ton micro.
mais dans les airs, c'est.
C'est dans les airs. On peut parler de rot si on veut, ça fit.
Ben oui, ben parce que mon rot s'en va où?
Dans les airs.
Voilà. Mais je suis pas venu ici pour parler de mes troubles gastriques, là. Même si j'avoue qu'avec mes nouveaux antidépresseurs, des fois, il se passe bien des choses. Mais non, j'avais d'autres sujets plus pertinents avec la mission culturelle de l'émission, en fait.
On va parler de Francouvert.
Mais juste avant, je vais faire un petit détour.
Bon, ça y est.
mais c'est Francouvert adjacent.
Ah oui?
Parce que vendredi dernier, j'ai vu le groupe qui a remporté les Francouverts 2022,
oui?
Rose.
Ah, on l'aime, Rose. Hein.
Rose
et qu'on
qui
l'aime.
Faisait son lancement au Foufoune électrique.
Ah, c'était au Fouf?
C'était au Fouf.
J'ai vu tes stories, j'avais pas catché que c'était au Fouf.
C'est parce que j'ai pu aller au balcon.
VIP?
VIP. C'était bizarre parce que, évidemment, j'ai eu accès à ça parce que je suis la directrice musicale de Choc.ca. On m'a donné des billets.
Yeah.
On m'a donné deux billets, mais la personne qui m'a accompagné, Ariane, que je salue, ils n'ont pas donné le petit bracelet pour pouvoir aller en haut, puis je n'ai pas compris.
Ben là, un plus one, ça plus one.
Ben, je sais, mais c'est
allô,
ça.
Allô, les foufs.
C'est ça, les foufs. Je veux dire.
Get your shit together.
Ça.
Même t'es un plus one, tu peux même pas passer la soirée avec.
Ben, c'est ça.
C'est un peu étrange.
T'sais, même si. Tu sais, il y a de plus en plus de spectacles de musique qui sont pas nécessairement du punk ou du metal qui ont lieu au Foufoune électrique, parce que les Fouf, c'est connu pour ça.
Voilà.
Si vous parlez à n'importe quel gars qui est né des années 60 ou 70 à Montréal, il va te dire qu'il était là en 91 quand Nirvana est passé.
Hey, c'était chaud là. Je pense qu'on en parle au moins une fois par mois au bureau.
Tout le monde dit qu'il était là, mais il n'y avait pas, y a pas assez de place.
Apparemment, le chandail, il y a un chandail de cette soirée-là. Ça vaut des centaines de dollars sur eBay.
Non seulement ça, mais j'ai déjà vu souvent Dave Grohl, qui était le batteur de Nirvana à l'époque, aujourd'hui le chanteur des Foo Fighters, qui porte des fois dans le spectacle, genre j'ai déjà vu porter...
Le chandail des Foufs.
Le chandail des Foufs.
Ah.
Il faisait des photos de Dave Grohl avec le t-shirt
ça,
des
là,
Foufs.
Tu portes le chandail des Foufs, c'est mieux que porter le chandail des Canadiens pour moi.
Ah ouais.
I said it.
Ça, c'est un statement, vraiment. Là.
J'écoute pas le hockey dans la vie, ça paraît-tu? Estelle est trigger.
Mais c'est parce que un t-shirt des Fouf, ça vaut genre une scène. Dans ce
non, mais quelqu'un de même, le batteur de Nirvana.
Oui, mais surtout qu'il porte pas quand il vient à Montréal nécessairement.
Non, c'est ça.
Comme, il fait un show.
Il aime son chandail, il porte pour de vrai. Là.
Ben,
ça fait longtemps qu'il porte. Là.
Oui.
C'est hot.
Wow.
Ben oui, c'est pas comme une vedette qui vient à. Tu sais, il y en a un, il y a pas longtemps, une vedette TikTok qui est venue faire un show au Colisée Pepsi. Puis là, il y avait. Je sais pas.
Bon, mais je peux.
Tu sais, c'est le gars, là. Je pense que c'est le gars, là, qui fait du folk, là, puis qui est big sur TikTok, puis qui.
On n'a pas le même FYP, Estelle, là. Moi, je sais pas c'est qui, ce gars-là.
Ben, moi non plus. Hey. J'ai pas TikTok, j'ai juste qu'il est big sur TikTok. En tout cas, il a fait un show au centre Vidéotron.
Okay.
Puis, à un moment donné, il y avait un chandail des Remparts de Québec. Mais tu sais bien que c'est parce qu'il a demandé d'avoir un chandail de la place, puis pas parce que, secrètement, ce gars-là, tout ce temps-là, il est le plus grand fan
des
Remparts de Québec.
On sait pas. Hey, il va nous écrire après sur Instagram, il va nous bâcher. On sait pas. Là, peut-être qu'ils aiment les Remparts, là. Je sais pas, je suis peut-être naïve. Okay.
Ben, à ce moment-là, je vais faire comme n'importe quel gars avec une fille qui a un chandail de hockey, puis je vais demander qu'il me nomme trois joueurs des Remparts.
Hein? Okay, parce que...
Ah, c'est une équipe, je pensais que c'était les Remparts en pierre.
Ben non.
Non, les Remparts de Québec, c'est l'équipe junior.
Non, attendez.
De château...
Attendez, il y avait deux personnes sur cinq qui pensaient qu'on parlait de murs de pierre.
Oh, wow.
J'adore ce moment.
Ah non, j'ai voulu faire un petit détour.
Mais Thomas, il est français, c'est correct, mais Nathaniel.
J'ai un rapport français, ok.
Mais je comprends le lien que t'as fait. Tu sais, c'est quand même, le lien est là. Le
mais
lien
c'est
est
les Remparts de Québec.
Ben
oui, mais c'est pour ça que
un chandail de mur
ça,
de pierre.
Hey, écoute, des fans de géologie, ça existe.
Bref, Rose. Quand on est sortis du spectacle de Rose, j'avoue qu'on était plusieurs personnes à se dire ça va être aussi historique probablement que le show de Nirvana. Wow. Dans 20 ans, les gens vont dire, hey, moi, j'étais là au show de Rose. Au fou. Oh. C'était tellement bon. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Rose va faire d'autres spectacles cet été. Là, c'est, l'album vient de sortir.
Oui, on risque d'en parler. Ouais.
Lancement à Québec, il va y avoir des spectacles en masse dans les festivals cet été.
On va aller voir ça.
Puis pour avoir déjà vu Rose auparavant, tu sais, je pense que oui, c'était vraiment incroyable comme spectacle. Mais je pense que Rose, c'est tout le temps incroyable en spectacle.
Puis elle s'améliore de fois en fois et comme elle te surprend à chaque fois, c'est différent.
Mais c'est déjà là. On dirait quand je l'ai vu finale en 2022 des Francouvertes, c'était déjà là. Puis je pense que c'est pour ça que ça a autant levé. Surtout que Rose, faut pas l'oublier, lorsque le groupe a fait les Francouvertes, oui, en 2022, il y avait pas de chanson qui était sortie encore. Mm-hmm. Moi, c'est une chose qui me faisait peur, en fait. C'est que je voyais toute l'anticipation qu'il y avait autour de ce projet-là, comment les spectacles étaient bons et comment les gens allaient voir les spectacles, mais je me disais, qu'est-ce qui arrive si, sur album, ça sonne pas? Tu sais, what if...
Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des artistes, c'est comme plus en termes de performance qui vont aller chercher leur audience puis ou vice-versa, tu sais.
Moi, ça m'est déjà arrivé de voir un spectacle, de me dire, waouh, c'était vraiment bon, d'aller acheter l'album, de l'écouter, puis...
Il se passe même affaire.
Mais heureusement, Rose a sorti... La chanson L'habitude l'année passée, ça a vraiment été un immense succès. L'album est sorti, on l'aime beaucoup aussi à Choc. Puis voilà, puis Rose, ben moi j'ai pu la voir avant que ce soit cool parce que j'étais allé aux Francouvertes en 2022. Et je vous dis ça parce que ben là, ce sont les demi-finales des Francouvertes qui commencent. Donc une grosse.
On a hâte, là. En tout cas, je dois dire aussi à nos chers auditoristes que moi et Estelle, on était dans la même soirée aussi. C'était il y a ça 2 semaines, si je ne m'abuse, pendant les préliminaires, mais je sais que tu as fait la plupart des préliminaires aussi.
Je les ai toutes faites.
Moi, je n'ai que eu la chance d'aller à une soirée. Et là, je suis extrêmement contente de voir un de mes artistes préférés que j'ai vu durant cette soirée-là, Nectar Palace, continuer pour les demi-finales. Oui. Je devais faire ce shout-out-là parce que j'ai vraiment adoré ce show-là.
Mais on va en parler. Je vais parler rapidement de chaque soirée.
Let's
des
go.
Demi-finales.
On part.
Ça
on
commence
part.
Ce soir, en passant. Là. Mon Dieu.
Tu y vas-tu ce soir?
Non, je pense que je vais choisir mes soirées en fonction de mes amis qui vont y aller parce que je les ai toutes vues, les bandes.
Je t'annonce que tu vas au Francouvert demain parce que
j'ai pas. Ben oui, je sais bien, j'ai pas chaud, j'ai des amis qui sont là aussi. D'ailleurs, j'ai rêvé deux fois. Aux Francouvertes dans les derniers jours.
Estelle, tu travailles trop.
Je rêvais que j'allais voir un des shows de demi-finale, puis c'était vraiment difficile parce que le Ben, il mettait
dans
comme
ton
10,
rêve?
Ouais, il mettait comme 10 minutes entre leurs tunes, puis c'était compliqué.
Ah, c'est...
Genre...
Oh mon Dieu, mais c'est comme l'équivalent musical de t'essayes de courir, puis ça marche pas, tu sais.
Ouais. Ouais. Mais quelle analogie incroyable!
Mais ça, je pense que c'est ton cerveau qui essaie de render où est-ce que tu t'en vas.
Oui, c'est ça.
Tu sais, comme un vieux jeu de 64, mettons, un vieux jeu d'ordi que l'ordinateur n'est pas capable de générer tout l'environnement parce que ton personnage va trop vite.
C'est ça, ouais. Exactement.
Je pense que c'est la même chose dans un rêve.
Mais toi, c'est un Ben qui n'était pas capable de faire son setup.
Faut que mon cerveau imagine à la fois comme le setup, la scène, les gens autour, puis c'était bizarre de scène en plus, mais aussi de la musique qui est au travers, puis la mise en... C'était compliqué. Il se passait beaucoup de choses là-dedans. Mais, on va y aller avec... Les artistes, voilà. Caroline Boily, Soleil Lonnière et Sensei H. Ça, c'est la demi-finale de ce soir. Demi-finale d'artistes qui ont été dans le palmarès de Choc, en fait. Moi, Sensei H, je l'avais rentré. Les trois.
Génial, on aime ça.
En même temps, Sensei H, j'avais rentré son album, c'était à l'été 2022. Mmh. Rappeuse...
De Québec,
de
non?
Québec, mais de Rimouski, mais de France, mais du Maghreb aussi.
International.
International Love, pareil comme... Pitbull?
Oui. Oh mon Dieu, ça. Mais on finira jamais cette émission.
Ça sonne pas vraiment comme du Pitbull. J'ai été super surprise de voir son spectacle, à quel point déjà il y avait un groupe de musique sur scène avec elle.
Ouh!
Énormément d'énergie, c'est du rap qui rentre dedans, ça fesse, là. Tu sais, autant je sais que t'es une fan, mettons, de Calamine,
oui.
Qui est très.
C'est ça que j'avais posé comme question.
Très chill, il y a du
très
hushlag,
chill ouais. Out, là. Oui, oui, oui.
Sensei H, non.
Ah ouais,
elle
ça,
a le
genre...
couteau entre les dents.
Ah ouais!
Mais elle a une magnifique
en mode rainbow,
aussi.
Là.
Yo. En mode rainbow, mais on a du fun quand même pendant son spectacle. Malade. Soleil Lonnière, j'en avais parlé un peu lors de ma dernière apparition ici même à Dans les airs. C'était un des meilleurs spectacles que j'avais vu au Francouverte. Spectacle, c'est dur de décrire ce qu'elle fait, Soleil Lonnière, artiste autochtone qui mélange la musique électronique expérimentale. Il y avait comme deux clavéristes sur scène, puis ça faisait plein de blip bloop. Il y avait un guitariste, mais il faisait plus du noise qu'autre chose avec sa guitare, tu sais. C'est super expérimental. Tu sais, t'as des chansons, dans le sens où t'as des refrains, t'as des bouts attrochants, mais t'as des longues parties instrumentales où elle, après ça, elle danse, elle avait sa corde, il y a toutes ces affaires-là qui vont dans plein de directions.
Ça donne vraiment envie d'aller voir.
C'est super. Ben oui, puis on l'avait reçu d'ailleurs en session live il y a de cela quelques semaines, ici même.
Ah non, mais sa voix, je dois dire, j'étais dans les bureaux. Oui. Et j'entendais sa voix du studio. Habituellement, t'es pas, ça m'était jamais arrivé. Et sa voix porte tellement, là. Mmh. Oh, j'ai été choquée. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai ôté mes écouteurs en travaillant pour l'entendre du studio parce que je trouvais ça tellement beau.
Gros shout-out à Vincent, qui s'occupait de faire la prise de son pendant cette session-là, qui a clairement fait un bon travail. Et l'autre, c'est Caroline Boily, qui est dans Palmarès en ce moment, qui veut toujours se faire paraître un album, là, ça fait quelques semaines.
Yeah, bravo!
Album un peu plus proche, un peu plus post-rock au travers. Tu sais, c'est le genre de choses que quand tu commences à l'analyser, tu te rends compte à quel point c'est... Ok, non, c'est vraiment complexe, finalement, ce qu'elle fait musicalement. Tu sais, il y a comme des chansons qui sont pas tout à fait en 4/4. Là, tu comptes les temps, puis tu te perds un peu, puis genre... Tu sais, il y a ce côté-là expérimental aussi chez Caroline Boily. Fait que je pense que ça va bien ensemble, ces deux artistes-là. Ça, donc, c'est ce soir. C'est ce soir.
Be
ce
there.
Soir. Be there or be square. Le 16 avril, ça, c'est demain. Voilà, Nectar Palace qui va être là.
Moi, je veux dire quelque chose.
Vas-y.
Ça m'a pris un petit bout avant de remarquer qu'il y avait un œil blanc.
Oui.
Puis là, quand j'ai remarqué pendant son show, je pense que c'est genre 15 minutes dans son show, j'ai fait « Hey, il y a un œil blanc ». Puis là, je pensais que j'étais folle. J'étais comme « Attends. » Y a-tu un œil blanc? Puis là, ça a tellement changé toute la magie pour moi. Oui, sa musique est fun, est bonne, mais comme.
Mais y a un œil blanc.
J'ai capoté parce qu'il y avait un... Et le stylisme.
Oui.
Les gars étaient habillés d'une façon assez ressemblante, mais orchestrés d'une façon magnifique. Et j'ai appris par la suite aussi, c'est Virginie B qui avait fait de leur stylisme.
C'est très logique, puisque un des membres du band, qui est Luigi Beaulieu, c'est le copain de Virginie B.
There you go, tout
voilà,
est dans tout.
Tout est dans tout. Donc voilà, Luigi qui est avec Nectar Palace. Nectar Palace, c'est le fameux Sean qui danse Super Plage. Qui c'est l'autre qui danse Super Plage? Virginie B.
There you go, tout
voilà,
est dans tout.
Voilà, tout est là. Sean, donc, qui avait un projet auparavant qui s'appelait Wonderbolt, a décidé de faire de la musique en français. Si vous cherchez à écouter du Nectar Palace, ce ne sera pas possible parce qu'il n'y en a pas sur Spotify. Il n'y a pas encore sorti de chanson. Mais...
Grande primeur au Francouvert.
Voilà, mais c'est un gars qui a de l'expérience. Il a fait des spectacles avec son projet solo auparavant.
Il livre.
Il y a un côté un peu... Tu sais, presque Plastique Bertrand, je trouve, par moment.
Ah ouais?
Tu sais, espèce de new wave, mais tu sais, il y a un côté un petit peu punk, un peu irrévérencieux aussi. Justement, il y a un verre de contact blanc.
Ah,
c'est peut-être pour ça aussi que ça t'a autant mélangé.
Ça faisait elfique, j'aimais ça.
Parce que tu l'as déjà rencontré, tu sais, ses yeux sont pas de même, mais il y en a juste un. Il y en a juste un.
Je me suis demandé un verre de contact juste dans un œil pour le style.
Ouais,
blanc. OK, je pensais qu'il était genre aveugle, puis ça faisait son style.
Mais je pense qu'il voit pas d'un œil. Moi, je pense qu'il voit pas d'un œil. Il faudrait que je lui demande, mais je pense qu'il voit pas d'un œil quand il joue. Parce que je sais que ces verres de contact-là, j'en ai déjà porté pour des shoots. Tu vois rien, là. C'est laiteux, là.
Mais c'est peut-être... Ça lui enlève, genre, le
imagine jouer
fright,
de la guitare.
Peut-être.
Non, mais imagine jouer de la guitare avec un œil.
C'est du talent.
C'est ça.
C'est un gars de grand talent qui joue avec plein de gens. Il a l'expérience. C'est juste... Être en avant sur scène, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins fait dans sa carrière.
Ouais.
Mais c'est vraiment très chouette. Et à la batterie, il y a la fameuse moissonneuse-batteuse qui fera 3 prestations pendant les demi-finales.
Mais non.
Ben oui, Marianne Tessier, elle avait été dans 3 bennes au Francouverte, les 3 font une demi-finale.
Une machine. Moissonneuse-batteuse.
Ben oui. Moissonneuse-batteuse. Ben oui, ça fait comme le batteur, honnêtement.
Ben oui. Moissonneuse qui, d'ailleurs, fait de la batterie aussi pour Philippe Braque, entre autres, maintenant.
Yeah.
Elle était dans le groupe Moka avant, groupe avec notre bonne amie Soraï. Puis voilà, elle sera aussi avec Le Belladone, qui est la même soirée.
On aime ça aussi, Belladone.
Le Belladone, pour vrai, un peu comme Hector Palace, là, allez pas essayer de trouver des chansons sur Internet, ça n'existe pas encore. Moi, Le Belladone, je connais cette personne-là parce qu'on s'est abonné à un moment donné sur Instagram. Je sais pas d'où, pourquoi, mais on est des...
C'est le monde de la musique, tout le monde se connaît.
On est des mutuals, mais je savais pas que cette personne faisait la musique, en fait.
Ah oui, c'est vrai, tu me l'as...
Le moment donné, j'ai appris ça. Ah, mon Dieu. J'ai vu son spectacle, j'ai tellement hurlé ma calisse de vie que quand ça s'est terminé, j'avais des...
Je dois dire que Estelle, quand tu vas voir un show avec, c'est la première personne à faire « Wouh! » Genre, si t'es pas dedans,
c'est toi!
Tu vas être dedans.
Oui, mais je veux dire de quoi d'important... Le genre de réaction viscérale que j'ai eu à la fin de ce spectacle-là, c'est pas quelque chose que j'ai d'habitude.
OK, ça, c'est moi, genre le Pikachu fois 1000.
J'avais le cœur qui battait de même. J'avais besoin d'un moment. J'ai tellement hurlé, j'ai tellement vécu des choses.
Wow.
C'est un gros orchestre. Il y a tellement de femmes sur scène.
On aime ça.
Il y a Fior, entre autres, qui, maintenant, je sais qu'on peut le dire, fera la première partie d'Awabi dans notre spectacle. Notre concert choc est le 17 mai. Vous êtes la bienvenue. En plus, si vous êtes...
C'est une belle plug, ça, Estelle. Merci.
Ben voilà. Ben moi, Fior, je l'ai rencontré là. Puis là, une semaine après, on me dit « Ah, ben, tu sais, Alexis, il me dit « Ah, je pensais peut-être avoir Fior en première partie. » Puis je dis « Ben oui, là, bonne idée. » Fait que voilà, il y avait aussi Irma, entre autres, qui était là, qui était dans Feu, le groupe Les Fées, à l'époque. Plein de filles de grands talents qui sont sur scène. C'est très art-pop, c'est particulier. Il y a tout un côté un peu Vierge Marie qui pleure du sang. T'sais, des paroles super féministes, mais qui jouent un peu avec la religion, avec l'image de la Vierge, avec toutes ces choses-là. C'est flyant, maudit.
Si vous voulez entendre Estelle crier très, très fort, venez nous voir demain au Vancouver.
Voilà, il y aura également Princesse qui sera là. Groupe de rock un peu convenu.
Oui, on avait parlé la dernière fois dans notre week-end.
Mais que c'est des filles qui shred très, très bien. Ça, du bon jeu de guitare, les paroles aussi à saveur féministe au travers de tout ça. Groupe qui est très accessible. Puis voilà, je pense que ça va être une très, très belle soirée. Puis ça se peut que j'y retourne le lendemain parce que j'ai encore des amis qui sont là.
T'as trop d'amis, Estelle.
Mais en même temps, c'est parce que La Monarque.
Ah, La Monarque. La première à jouer, que t'en parles.
Ben, tu sais, les gens qui sont avec elle sur scène, c'est Moissonneuse-Batteuse.
Yes.
Louis J, qui est avec Nectar Palace, dont on vient de parler.
Ah, oh, ouais, je savais pas qu'il était dans La Monarque.
Il est avec. Oui. Et Soraï, et Jeanne Gagné. Et qui est la fille qui était avec Moissonneuse-Batteuse
dans
le temps.
Mais tout est dans
tout. Et
qui
est la fille qui est dans notre palmarès en ce moment. Et qui est la fille du gars qui animait l'émission L'Épicerie aussi.
Mon Dieu.
Voilà. Donnez des prix à tous ces gens-là, s'il vous plaît.
Ben oui.
Moi, ce que même j'adore... le gars L'Épicerie.
Voilà, La Monarque, ça vient tellement chercher quelque chose chez moi d'important parce que c'est très Charlie XCX. C'est très Sophie. C'est très
hyper-pop. Ah non, mais son style, là, c'est Björk aussi. Là, je le regarde. Je sais que c'est pas le même style musical, mais genre esthétiquement, je suis comme allô.
C'est elle qui fait ses propres costumes.
Ah, oh, mon Dieu, j'aime encore plus.
Moi, je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était un Pokémon. Là.
Ah, oui, un Pokémon rare.
De gros one-suit rose avec des cornes qui sortaient des bras. Il y avait aussi cette immense clope.
Hein? J'ai pas vu ça.
C'est comme une grosse peluche, mais d'une cigarette.
Ah, j'en veux une!
Puis au bout, ils ont mis une vape. Fait, pendant le spectacle, il y avait des bouts, ils prenaient l'immense cigarette d'à peu près 2-3 pieds de long.
Mais là, vape était grosse comment pour que ça fasse de la tournée? Ah, mais c'est comme moi quand j'ai fait mon costume de Columbo à l'Halloween.
Ben,
j'ai fait la même chose.
Ils ont mis une vape au bout. Ils fument leur immense cigarette puis il y a de la fumée qui sort.
Oh, wow.
Mais j'ai adoré La Monarque aussi. Encore une fois, des paroles qui sont féministes, mais d'un féminisme très, très cru et irrévérencieux. Des chansons qui parlent de culture du cancel, entre autres, puis de canceller du
on
monde.
On aime ça, Chris.
Vraiment plus d'affaires là. Donc, La Monarque, moi j'ai très très hâte. Puis, comme c'est ta dernière soirée aussi, on va annoncer des prix, ça va être la fun, ça va finir à la salle de
ville. Ah, c'est mercredi qu'on annonce tous les prix.
C'est mercredi qu'on annonce la plupart des prix. Ensuite, il y a Loïc La France, notre.
Le roi des chapeaux.
Le roi des chapeaux, le cow-boy des crises d'adolescence. Loïc La France, donc, artiste, lui aussi de Québec via Rivière-du-Loup, via Bas-Saint-Laurent. Artiste, donc, qui fait beaucoup de bruit sur les médias sociaux.
Oui, c'est parce que tu as dit le roi des crises d'adolescence aussi, c'est parce qu'il a nommé ça aussi ce stage quand on a vu son show.
Oui, c'est tellement fort que Nectar Palace.
Oui, c'est ça, puis on en a reparlé après, puis je trouvais que ça avait vraiment fait un bon bang. On m'accusait à quelque part de faire la musique de crise d'adolescence. Ben, yeah, c'est ça, c'est une tune de crise d'adolescence, puis ça a full marché, puis j'étais comme malade, let's go.
Il courait partout, puis il criait là.
Moi, j'aimais ça. J'ai vraiment aimé ça, ça a comme nettoyé l'air de toute la bad vibe energy. J'étais comme parfait, let's go, you go, boy.
C'est la musique de cowboy sans l'aspect de masculinité toxique qui
absolument
peut venir avec.
Ouais.
Luc La France, d'ailleurs, qui utilise les pronoms masculins non-genrés. Puis, ouais, c'est vraiment très chouette. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. J'ai des petites réserves, là, mais je pense que c'est une question de remettre ça dans le four juste un petit peu, tu sais. Puis après ça, je pense que ça va être prêt. Mais peut-être que, puis ça m'est déjà arrivé, peut-être que là, je vais le revoir en spectacle, puis tout d'un coup.
On adore ça, ce
je vais cliquer différemment. Tu sais, il y a des artistes, des fois, je les ai vus au Francouverte une soirée. Ah, OK. Puis là, une couple de semaines après.
Puis ils ont souvent du nouveau stock
des
aussi.
Oui, souvent. Ben oui. Il y a des ajustements, des fois, qui vont être faits aussi, qui font en sorte qu'en demi-finale, ah, OK. Là,
on comprend. Ouais.
Là, ça va mieux. Tu sais, avec. Il y avait Holt il y a 2 ans. Je me souviens que j'avais vraiment pas aimé sa performance au début.
Uh-huh.
Puis en demi-finale, OK. Puis là, rendu en finale.
C'est pour ça que c'est le fun, les Francouverte, c'est parce que quand tu as la chance de revoir les artistes après en demi-finale et en finale, c'est comme tu réitères un peu « Ah, OK, c'est ce que je pensais. Ou, ah, ben là, je change d'avis. » Tu sais, c'est quand est-ce que tu peux avoir ce changement d'avis-là? Mm-hmm.
Ben, c'est ça. Puis enfin, dernier artiste qui va jouer le 17, lui, j'avoue que j'ai un petit peu plus de misère avec lui, c'était Patrick Bourdon.
Ah, je l'ai pas vu en show.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trippent vraiment sur ce qu'il fait, espèce de folk, rock, sale, mais j'avoue que j'ai eu un immense malaise quand il a fait semblant, à un moment donné, de se crosser avec son micro puis d'éjaculer sur son guitariste. Je me suis dit qu'on tombe.
Au moins, il a pas fait ça à la foule, je me dis.
Au moins, il a pas fait à la foule, mais j'étais comme... Oh.
C'est
autant intense. Je disais qu'il y a Luc
La France. C'est peut-être leur symbole d'amitié, tu sais. Il y a des gens qui ont des signes de main, là.
C'est peut-être
ça. Autant je disais que Luc La France, c'était comme des cow-boys, mais sans la partie masculinité toxique. Patrick Bourdon, c'est comme de la musique de cow-boy.
Point. OK.
Sachez d'ailleurs que Choc, juste pour terminer là-dessus, va remettre un prix.
Oui.
Mercredi, au Francouverte. Je vous dirai pas c'est qui, il faut y aller. Mais voilà. Voilà, ouais. C'est assez.
On est voilà. Mais wow. C'est fun. Les finales, en fait, par la suite, on va attendre un petit moment aussi par après pour savoir qui s'en va en finale.
On va le savoir le mercredi soir, en fait.
Mercredi
17, oui, parce que pareil comme au préliminaire, les gens votent.
Oui.
Le soir la première soirée, on va savoir c'est quoi le top 3. Après ça, le lendemain, on va avoir un nouveau top 3 avec les artistes.
Non, mais tu sais,
le mercredi soir, on va apprendre tous les prix qui sont donnés aux demi-finalistes. Il y a des prix qui sont donnés lors de la finale, mais tous les prix, là, les gens qui gagnent plein d'affaires, puis on apprend qui va en finale.
Faut savoir aussi que quand tu vas voir un show des Francouvertes, t'es appelé à voter, tu sais, ils donnent un papier puis un crayon. Moi, donne-moi pas un papier puis un crayon pendant que je regarde un show. C'est sûr que je dessine des dessins dessus puis genre. Puis après, c'est remis aux artistes, tu sais. Fait que à chaque artiste, je me suis full donné, tu sais. J'étais comme, j'écrivais des petits commentaires full positifs. J'étais comme, ok, ça, j'aimais ça. Puis après, je faisais genre un dessin.
Mais c'est cool.
Tu peux pas me donner un papier puis un crayon puis je dessine pas pendant le show.
Là, ça fait que ces gens-là ont des œuvres d'art.
Ben oui, vraiment.
Moi, j'ai signé mon dessin de petite sorcière que j'ai fait pour Nectar Palace puis j'espère qu'il l'a gardé parce que vu que je l'ai signé, ça vaut 2000$.
Moi, j'ai fait un elfe avec un nez blanc. Puis le château de Sauron en arrière parce que Palace.
Ben oui.
Bon,
c'est concept.
Guys, merci tellement d'avoir été avec nous cette semaine. Ça fait tellement du bien de retrouver l'émission après 2 semaines.
Oui.
J'avais pris l'habitude aussi de vous demander, avez-vous des projets en fin de semaine? Avez-vous des événements? Je sais que vous venez finir votre session aussi, là. Vous terminez tranquillement votre session, là. Vous êtes en mode pyjama aussi, peut-être un petit peu, là, je comprendrai.
Mais... Ben, moi, je vais vous admettre que dimanche, je suis à l'aéroport. Hey! Je m'en vais pour 2 semaines au Maroc. Fait que je vais pas être à choc pendant 2 semaines.
Mon Dieu.
À cause de ça.
Tu t'en vas-tu dans le désert?
Ouais, je vais faire du camping dans le désert.
Non!
Ouais.
C'est pas chanceux à Mireille, hein?
Non, dis-moi pas ça, mon Dieu. Hey, je suis en train de préparer mes... En fait, j'ai déposé officiellement mes demandes de subvention pour aller en Namibie, dans le désert.
Wow.
Je capote. Mais si tu as le temps, au Maroc, d'aller à Darkla.
OK.
Vas-y.
OK.
Il n'y a personne. C'est à la limite du Sahara et de la mer. C'est magnifique.
OK, ouais. Ooh. Je prends en note.
C'est génial.
Tu veux des arrêts, tu me le diras. Parfait. J'aime bien faire ça.
Mireille, t'es spécialisée en grande sable. Tu connais tous les grandes sables, tous les déserts.
Ah, je ne peux pas me prôner grande prêtresse du désert à ce point-là, mais je suis assez obsesse.
C'est vrai. Okay. Ce qu'il faut savoir de Mireille, c'est que dès qu'elle a vu Dune,
Non, mais Thomas, il était curieux de m'entendre parler de Dune présentement. Je m'empêche de finir le 6e tome pour être capable de le finir dans le désert de Namibie.
Oh mon Dieu,
je suis romantique à ce point-là.
C'est un niveau d'obsession quand même. Ouais.
Je sais que ma mère va me détester si je le mentionne pas, mais ma mère est une collectionneuse de sable.
J'aime ça.
Fait qu'elle, tu sais.
Ah, dis-moi que quand elle boit des bouteilles de vin en voyage, elle remplit ses bouteilles de vin vides de sable.
Ma mère, elle a pas vraiment... Elle a pas l'occasion de voyager, en fait. Elle voyage pas beaucoup. Fait que c'est plus quand il y a des gens autour...
On lui ramène du sable.
Ouais.
C'est ça. Puis c'est cool. Ça peut être juste, là, tu sais, les petits copes là, de médicaments de Jean Coutu. Là.
Oui.
Tu mettais juste ça, tu remplis de sable. Là.
Mais pourquoi? Si je peux poser la question.
Je sais pas.
Elle aime le sable.
Elle aime ça. Fait que là, elle a sa petite collection de sable qui vient dans des petites bouteilles. Puis ça, c'est du sable qui vient de tel endroit. Puis ça, c'est du sable.
Ben là, je peux y en ramener, maudit.
Ben oui, ben c'est pour ça. C'est pour ça que je vous le dis. C'est parce que ma mère, elle va être déçue si je vous le dis pas.
Drop le sable.
Estelle, tu sable du Maroc.
Ouais, sable du Maroc, la Namibie. Ça s'en vient, maman Estelle.
Yes.
Moi, je voulais rebondir sur de la musique.
Oui.
Semaine prochaine, il y a sur Spotify ou sur d'autres plateformes. Il y a l'album de Justice qui sort le 25.
Justice, c'est putain dans le mandat émergent.
Je savais que... Mais Thomas, il n'est pas au courant.
Allez réécouter le clip de D-A-N-C-E, qui est comme leur plus gros hit à Justice.
Mais on peut parler quand même de Justice, là, c'est le fun.
Ouais, ils vont en Shoga, même si c'est pas émergent, mais c'est quand même... Ils ont quand même positionné des bases dans l'électronique qui est très, très bonne.
Et moi, j'ai écouté le début du nouvel album, c'est excellent.
Oui, mais tu sais, police partout, justice nulle part.
Oui.
Juste... Voilà, okay.
La police du mandat de l'émergence.
Oui, je suis à dire d'ailleurs, The Police, c'est pas émergent non plus.
Oh mon Dieu!
Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion.
Les Remparts, c'est-tu émergent?
Ouais.
Peut-être
c'est local.
Ben, Chiss 94.3, nos bons amis de Québec, ils diffusent des images des Remparts sur leurs ondes.
Mm.
Fait que ça va.
Des Remparts qui ne sont pas des roches, by the way.
Oui, on parle bien des roches. Yes.
Guys, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir et à la semaine prochaine.
Salut tout le monde! Ici Mireille de ta balado culturelle préférée dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode aérien avec des chroniques qui varient en thème à chaque épisode. T'es étudiante, étudiant à l'UQAM et t'aimerais vraiment ça venir nous parler au micro des événements culturels qui te font triper dans la ville? T'as juste à m'écrire à communication@commercialchoc.ca. À bientôt!